Chapitre 11. Solman voyait devant lui des hommes et des femmes criminels, misérables, d'abominables vieillards qui n'avaient pas hésité à livrer de l'eau empoisonnée au peuple des Slangs, à la fois pour assouvir une vengeance et affirmer leur pouvoir. Il discernait avec une acuité douloureuse le degré de responsabilité de chacun, de Perry Rouanne et de Mère Guenuvert, coupables d'avoir pris cette terrible décision. D'Orguan, de Loïc et de Catherine, coupables de s'être laissés convaincre sans résistance. De Joyner, enfin, coupable de s'être résigné à une passivité servile et minante. Ils se tenaient dans la lumière aveuglante des projecteurs à gaz avec une raideur qui signait leur forfait. Ils continuaient de jouer la comédie de la diffamation, de l'honneur bafoué, convaincus que sa complaisance les laverait de tout soupçon. Il ne chercha pas à savoir s'ils avaient soudoyé les trois néerdantes pour l'éliminer, s'ils avaient ordonné à Rilvaud d'assassiner Raïma. Il avait assez à faire avec l'immense détresse qui le gagnait et obscurcissait sa clairvoyance. Sa fichue clairvoyance. La tension avait enfermé le chapiteau dans une bulle de silence que s'acharnait en vain à transpercer les cordes de pluie. Les bras croisés, les trois Slangs attendaient la sentence avec l'assurance inébranlable des joueurs qui ont dissimulé tous les atouts dans leurs manches. Les yeux des spectateurs s'ouvraient comme de minuscules lucarnes grises dans la pénombre noyant les piquets et les cordes. L'or n'avait rien trouvé d'autre pour soutenir Solman que de rapprocher sa chaise de la banquette et de l'emprisonner dans un regard où la compassion supplantait la frayeur. La pression devint tellement vive que Solman, au supplice, fut tenté d'en finir au plus vite et de prononcer son verdict. Puis, des scènes de son enfance déferlèrent dans son esprit et lui firent prendre conscience qu'il avait tissé avec les pères et les mères du Conseil Aquariot des liens plus profonds, plus solides, qu'il ne l'aurait voulu. Il l'avait recueilli après la mort de ses parents, et bien que leur sollicitude fût en grande partie guidée par l'intérêt, ils avaient adouci la solitude de ces nuits. Ils l'avaient empêché d'errer dans une obscurité perpétuelle et glaciale. Ils l'avaient retenu à la vie. Ils l'avaient aimé, à leur manière. Parfois même davantage que leurs propres petits-enfants. Guenuvert, par exemple, avait été une mère de substitution, attentive et tendre, avant de se métamorphoser en une masse de chair froide, calculatrice et obsédée de pouvoir. Raïma, la guérisseuse, avait tenté de le préparer à cette confrontation en se donnant à lui, en l'éloignant de l'enfance, de leur sphère d'influence. Elle avait vu clair dans leur jeu bien avant lui. Ou peut-être s'était-elle forgé une opinion dans le livre des religions mortes, dans les prophéties ténébreuses de cet apocalypse qu'elle proclamait en marche. Il changea une nouvelle fois de position sur la banquette, mais ne parvint pas à détendre sa jambe tordue ni à calmer les élancements de ses vertèbres lombaires. La sueur ruisselait sous sa tunique et son pantalon de peau. Il avait l'impression d'être plongé dans un bain à la fois bouillant et froid. Exécrable en tout cas. « Nous voulons maintenant entendre la sentence ! Solman le boiteux !» La voix puissante d'Erat avait retenti comme un coup de tonnerre sous la toile du chapiteau. « Ne viens-tu pas d'affirmer que tu es le dernier des donneurs ?» reprit le Slang. Les visages des pères et des mères du Conseil Aquariot se tournèrent à l'unisson vers leur accusateur. Solman, qui ne voulait pas accrocher leur regard, en profita pour les passer brièvement en revue. Seul Joyner, liquéfié dans ses vêtements, semblait fléchir sous le poids des remords. « Je n'ai jamais rien prétendu de tel !» dit-il d'un ton hésitant. « Je rends grâce à ta modestie !» poursuivit le Slang en écartant les bras. « Mais cette assemblée t'a entendu dire, il y a de cela quelques minutes, que seuls les donneurs pouvaient reconnaître le don !» Solman hocha la tête d'un air las. Les trocandarmes l'avaient manœuvré avec une habileté diabolique, en dénonçant l'imposture de ses quatre confrères et en l'obligeant à s'affirmer publiquement comme le dernier des donneurs. Il lui avait coupé la possibilité de se dessaisir de l'affaire au profit d'un autre juge, puisqu'il avait lui-même reconnu qu'il n'y avait pas d'autre juge, ainsi que l'éthique le lui autorisait. Leur perspicacité l'étonna à nouveau. Leur perception n'était pas assez fine pour leur permettre de faire la différence entre une fillette à l'esprit vif comme l'or et un véritable clairvoyant. Quelqu'un les avait donc informés. Le même mystérieux indicateur, sans doute, qui les avait prévenus des intentions des trois Néerlandais et lui avait sauvé la vie. Solman s'éclaircit la gorge, se pencha vers l'avant et concentra son attention sur les trois slangs. La lumière crue des projecteurs miroitait sur les pièces métalliques qui sertissaient leurs vêtements de cuir, sur les culots des balles garnissant leurs cartouchières, sur les crosses des pistolets glissés dans leurs ceintures.
« C'est ce que je croyais, également. »
Il se rendit compte qu'il ne maîtrisait pas sa voix. Elle n'avait pas encore achevé sa mue. Elle s'échappait dans les tonalités traîtresses de l'enfance malgré ses efforts pour la raffermir.
« Mais je m'aperçois que ce n'est plus tout à fait vrai, puisque vous avez vous-même deviné que ces quatre-là, »
Solman désigna Laure et les trois autres enfants d'un ample mouvement du bras,
« n'avaient pas le don. »
L'infime crispation de Herat ne lui échappa pas. Oh, le slang gardait suffisamment de maîtrise pour donner le change aux membres de l'assemblée, mais Solman constata que sa remarque avait ouvert une brèche dans son rempart mental, une faille minuscule dans laquelle il pouvait à présent s'insinuer pour sonder ses intentions profondes.
« Nous n'avons fait qu'énoncer une évidence qui est depuis longtemps de notoriété publique !»
dit Herat avec ce sourire généreux qui dévoilait ses dents métalliques taillées en pointe et lui donnait un air de carnassier. Tout de même, il fallait des certitudes, ou une audace proche de l'inconscience, pour oser contester les donneurs à l'occasion d'un grand rassemblement, surtout de la part d'individus condamnés 11 ans plus tôt à 5 années d'emprisonnement dans les geôles troglodytes de Transylvanie. Solman oublia la douleur à sa jambe, les rigoles de sueur qui tendaient un filet poisseux sur son torse, le roulement lancinant de la pluie, l'hydre à 1000 têtes tapis dans l'obscurité du chapiteau, la présence encombrante des pères et des mères du conseil Aquariote, pour focaliser l'ensemble de ses perceptions sur Herat. Il cherchait un prétexte, un stratagème, n'importe quel échappatoire lui évitant d'avoir à prononcer la condamnation à mort des 6 vieillards qui lui avaient tenu lieu de famille pendant 11 ans. Ils avaient commis un crime que rien ne justifiait, mais même si sa résolution n'était pas dénuée d'une certaine forme de lâcheté, il refusait d'être leur bourreau.
« De notoriété publique ?»
dit-il sans quitter Herat des yeux.
Je n'avais jamais entendu parler de ce genre d'évidence avant aujourd'hui.
« Les évidences sont comme les chiens sauvages, » lâcha le slang. « Elles sautent à la gorge des uns et épargnent les autres. Ça n'a aucune espèce d'importance. Nous voulons seulement la justice. »
Des pointes d'énervement perçaient dans sa voix puissante, mais encore contenue. Il commençait à perdre son sang-froid, à sortir du bois, à offrir des prises à la vision pénétrante du donneur. Solman n'avait aucun doute sur la sincérité de sa démarche, mais il captait à présent une autre musique sous la rumeur de sa douleur et de son indignation. Une musique ténue, lointaine, qui ne lui correspondait pas, qui semblait provenir d'un corps étranger.
À moi, il me paraît important de comprendre d'où te viennent ces évidences.
Il avait prononcé ces paroles de façon mécanique, sans relâcher son attention, simplement pour faire parler son interlocuteur, pour l'amener à se découvrir davantage, pour trouver l'issue de secours. Le regard éperdu de Laure lui incendiait la joue droite. Il entrevoyait sur la gauche de son champ de vision les silhouettes claires et figées des pères et des mères du conseil Aquariote, puis au second plan, les rafales soudaines qui agitaient les rangs des spectateurs comme les herbes des plaines de l'Europe du Nord.
Herat pointa un index rageur sur l'estrade. « Eh bien, je vais t'en énoncer une autre, boiteux. Tu cherches à gagner du temps parce que ta condition de donneur t'interdit de mentir et que tu répugnes à juger les pères et les mères de ton peuple. Pas besoin d'être clairvoyant pour comprendre ça. »
Je cherche seulement à établir la vérité.
marmonna Solman d'une voix traînante, absente. La vérité. Elle ne lui serait sûrement pas révélée dans son intégralité à l'occasion de ce procès. Elle s'annonçait multiple, polymorphe. Et le crime des pères et mères à Quariot n'en était qu'un fragment qu'il ne fallait à aucun prix extraire du contexte. Quelqu'un avait soufflé sur le désespoir des Slangs pour les pousser à cette démarche. Quelqu'un dont la pensée sonnait à travers eux comme une trompette grave. Quelqu'un dont l'intention était de désagréger le ciment des peuples nomades. Et décapiter le peuple de l'eau, dont dépendait la survie de tous les autres, était le meilleur moyen d'aviver les tensions et d'instaurer un état de guerre. Comme tous les hommes frappés par le malheur et assoiffés de vengeance, les Slangs se prêtaient à merveille à ce genre de manipulation. Solman se tourna alors vers les six accusés. Il resta partagé pendant quelques secondes entre miséricorde et répulsion. Leurs yeux quémandaient de l'indulgence. Même ce Dirwan, qui s'appliquait à dissimuler ses sentiments sous un masque impénétrable. Orgwan soutenait discrètement Joyner, dont les jambes flageolaient, menaçaient de se dérober à chaque instant. Il interpréta le sourire figé de Gwenouver comme une tentative tardive et odieuse d'acheter sa complicité.
« La sentence, boiteux !» hurla Erat.
La foule se mit à gronder et à tanguer comme un bateau ivre. Les faisceaux obliques des projecteurs miroitaient sur les rideaux de pluie tombant autour du chapiteau et extirpaient de la nuit précoce des visages enlaidis par la fatigue et la fureur. Laure bondit de sa chaise, s'avança sur le bord de l'estrade et fixa d'un air farouche l'hydre à mille têtes qui, brusquement sortie de sa léthargie, commençait à déborder de son antre, à se répandre dans l'espace réservé aux plaignants et aux accusés.
« Taisez-vous ! Vous ne comprenez donc pas qu'il a besoin de silence ?»
Sa voix aigrelette parut rebondir telle une balle de caoutchouc sur le mur de vacarme dressé devant elle. Ses yeux étincelaient avec davantage d'éclat que les pierres précieuses de sa tiare et les broches en or piquées dans sa robe pourpre.
« T'es mal placé pour donner les leçons !»
glapit une femme.
« On devrait te fouetter et te couper la langue comme à toutes les tricheuses !»
rugit un homme.
« Ta bouche est aussi sale que ton cul, n'en sort que de la merde !»
Laure crut reconnaître la voix de la femme virgote qu'elle avait condamnée quelques instants plus tôt et qui profitait de la confusion pour contester le jugement, pour essayer de se soustraire à l'humiliation de la flagellation publique. Arc-boutée sur ses jambes, la petite Léote ne trembla pas, ni ne recula d'un pouce.
« J'accepte de me soumettre à votre verdict !» cria-t-elle. « Vous ferez de moi ce que vous voudrez, mais lui, écoutez-le, respectez-le. C'est notre dernier donneur, les vénérés pères des Slangs ont placé en lui toute leur confiance !»
Solman l'admira. Cette fillette dont la tiare lui donnait l'air d'une princesse des légendes dormantes. Cet infime bout de courage drapé de rouge. Cette proie sanglante, sur le point d'être engloutie par la gueule écumante d'un monstre. Sa détermination réussit là où aurait sans doute échoué la menace et la démonstration de force. La multitude s'apaisa, et, comme un fleuve en décrue, se retira à l'intérieur des limites assignées par les assesseurs. Lorsque le roulement de la pluie eut estompé tout autre bruit sous la toile, Laure retourna s'asseoir sur sa chaise, plus pâle que le drap habillant la banquette. Elle prenait conscience à cet instant qu'elle venait de s'offrir en pâture à des hommes et à des femmes au cœur durci par la haine. Solman lui adressa un regard complice, rassurant. Elle avait épargné une exécution sommaire aux accusés, à lui-même peut-être, et tant qu'il aurait un souffle de vie, il s'opposerait avec la plus grande fermeté à toute représaille exercée contre elle. Certain maintenant que plus personne n'oserait l'interrompre dans ses investigations, pas même Erat, piégé par les paroles de Laure, le Slang ne pouvait à la fois proclamer sa confiance dans le jugement du dernier des donneurs et contester ses méthodes. Il entreprit de sonder sans hâte les esprits des pères et des mères du Conseil Aquariot. Il s'efforça d'oublier leur histoire commune, de glisser entre les mailles du filet de l'affection, de les contempler en toute impartialité, de plonger au plus profond d'eux. Il ne s'attacha pas à l'un d'eux en particulier, il les traita comme une entité indivisible, comme un agrégat de pensées, de souvenirs, de secrets. Ils disputaient des batailles obscures sur le champ élargi de leur six consciences, ils traînaient des blessures anciennes, mal oubliées, des rancœurs inavouées. Ils évoluaient dans un univers invisible où chacun s'attribuait un rôle assorti à ses désirs occultes. Ils s'appuyaient les uns sur les autres pour compenser les manques, pour combler les vides. Solman lut les données plus ou moins récentes imprimées dans leur mémoire, à la façon des traces informatiques abandonnées par les machines de l'Ancien Monde, et qui, par exemple, continuaient de régir les Solbos. Il lut la décision d'éliminer Raima, le projet de se débarrasser de Rilvo une fois son forfait accompli. Il lut les choix dramatiques qui avaient jalonné leur chemin depuis qu'ils avaient conquis le pouvoir, les opérations frauduleuses qui leur avaient permis de garder la majorité lors des deux derniers scrutins aquariotes, leur peur du peuple des Slangs et la volonté d'extermination qui en avait découlé, les querelles haineuses qui les avaient divisées. Il lut enfin, dans des zones souterraines, aussi profondes que les couches où Elaine l'Ancienne avait enfoui le meurtre de ses deux enfants, l'assassinat de ses parents. Il eut l'impression d'être emporté par une coulée de glace. L'espace de quelques secondes, il fut coupé du monde, ramené à l'hébétude de l'errance dans la nuit qui avait suivi le crime. Il parvint, sans savoir comment, à contenir le hurlement qui gisait en lui depuis 11 ans et qu'il n'avait encore jamais eu l'occasion de libérer. Puis des souvenirs affluèrent en masse dans son esprit gelé, antérieurs à cette nuit fatidique. La violente dispute qui avait opposé son père à un homme qui pouvait être Irwan. Même geste mécanique pour remonter sa mèche. Les larmes de sa mère penchées sur son lit. L'irruption de deux visiteurs d'un autre peuple dans la tente familiale. Les projets de départ, de fuite. Les éléments de leur mémoire et de sa mémoire s'emboîtaient les uns dans les autres avec une précision implacable. Les pères et les mères du peuple aquariote avaient décelé son don de clairvoyance dès sa naissance, mais ses parents avaient refusé de se séparer de leur fils comme l'ordre leur en avait été signifié. Les donneurs étant de plus en plus rares, il était devenu l'enjeu d'une bataille féroce entre sa famille et les membres du conseil. Et les six vieillards qui se tenaient au pied de l'estrade n'avaient pas hésité, pour parvenir à leur fin, à recourir aux moyens les plus radicaux. L'homme chargé de la besogne avait reçu pour consigne de déguiser ce double meurtre en un crime de maraudeur, de violeur. La négociation des responsables aquariotes avec l'exécuteur des hautes œuvres se nichait dans leur passé comme un serpent engourdi qu'il lui suffisait à présent de réchauffer de sa vision pour le réveiller et l'amener à se découvrir. Il pouvait presque entendre la voix de Mère Catherine fixer le prix du sang versé. La voix d'Irwan recommandait la prudence. La voix de Guenuver s'inquiétait de la réaction de l'enfant. La voix de Joiner s'interrogeait sur la légitimité de leur décision. Et puis, la voix du tueur, cassante, enrouée, à la fois étrange et familière. Un bruit fracassant fut le fil qui lui permit de s'orienter dans le labyrinthe de ses souvenirs et de revenir au présent. L'eau accumulée avait fini par crever la toile du chapiteau et s'écouler en cataracte quelques pas derrière l'estrade. Il se rendit compte qu'il pleurait. Mère Joiner, soutenue par les pères Orguan et Loïc, versait également toutes les larmes de son corps. Alors, à cause d'elle, parce qu'elle étouffait depuis 11 ans sous les remords, parce qu'il ne pouvait pas les dissocier de sa sentence, parce que leur exécution ne ferait qu'envenimer les relations entre les peuples nomades, il se redressa, prit une longue inspiration, repoussa sa colère et écarta les bras.